Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous rencontrer et d'accueillir cet après-midi Lionel Duroy chez Mola. Alors, je suis très heureux que Lionel Duroy ait accepté que je le présente, parce que je ne suis pas critique littéraire, comme vous le savez, je ne suis que directeur du Centre François Mauriac de Malagare. Mais nous avons, l'an dernier, au moment du prix Mauriac, retenu Lionel Duroy comme lauréat pour son livre « Le Chagrin ». Et à cette occasion, nous avons eu l'occasion de faire sa connaissance, de lire son dernier roman, et puis du coup de remonter un petit peu dans les précédents. Et le contact que nous avons eu, quand je dis nous, c'est les membres du jury avec le lauréat, mais aussi les lycéens qui ont eu l'occasion de rencontrer. On a eu une telle fluidité de relation, une telle qualité de relation, une telle amitié qu'on s'est dit il ne faut pas qu'on en reste là. Et j'ai proposé à Lionel Duroy que son prochain roman, il puisse venir le présenter à Bordeaux. Et on s'est rendu compte, quand j'en ai parlé à Denis Mola, qu'en fait, Lionel Duroy n'était jamais venu chez Mola. Et donc, c'était une très bonne occasion de commencer avec ce nouveau roman qui s'appelle Colère. Colère avec un S. On y reviendra tout à l'heure. Alors, peut-être un mot pour dire que dans le précédent ouvrage, celui qui a été le lauréat du prix Mauriac, Le Chagrin, le narrateur, qui s'appelle dans le livre William Dunoyer de Pranassac, nous décrit une sorte de saga, mais plus qu'une saga, une sorte de naufrage familial. Vous l'avez peut-être lu, une famille de 11 enfants, un père qui essaye d'être à la hauteur de l'attente de sa femme avec difficulté, qui se crible de dettes pour cette raison, et dont le fils... que le fils n'arrive pas à ne pas aimer, en quelque sorte. Enfin, une mère qu'il, au contraire, à laquelle il en a beaucoup voulu, pour dire avec un peu d'euphémisme les choses, enfin, qui a été vraiment un gros, gros, gros problème pour le narrateur. Une famille, le narrateur est né après-guerre, et donc sa famille a été marquée, comme beaucoup de nos familles, par les clivages de la Seconde Guerre mondiale, le Vichy, la Résistance, enfin bon, donc un contexte historique. Voilà, dans cet ouvrage, bon, on a de bonnes raisons de penser que Lionel Duroy n'a pas inventé beaucoup de choses, parce qu'on reconnaît des détails précis. On a l'impression qu'on est vraiment dans le domaine de l'autobiographie, même si la fiction est dans le regard porté sur les autres, sur soi-même. Voilà. Et les lycéens qui avaient lu le livre et qui avaient interrogé Lionel Duroy avaient posé comme première question: « Mais dites-moi, comment est-ce que votre famille a réagi ? Parce que vos proches ont dû... quand vous avez raconté tout ça, mais comment est-ce qu'ils ont réagi ?» Et Lionel Duroy avait répondu: « Ben, c'est très simple, depuis, ils ne me parlent plus. » Et alors, il avait expliqué qu'évidemment, c'était quelque chose de douloureux pour ses proches, mais qu'en même temps, c'était indispensable pour lui, que c'était le travail de l'écrivain. Bon. Alors, dans ce nouvel ouvrage qui s'appelle Colère, je ne sais pas si on peut parler de suite, parce que c'est un ouvrage qui est tout à fait autonome, bien qu'il y ait des références, mais c'est une suite dans la mesure où le narrateur... raconte maintenant son histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire, ça n'est plus le fils avec son père et sa mère, c'est maintenant le père avec sa femme et ses enfants, et notamment la relation qui, moi, m'a beaucoup touché, évidemment, parce que je suis un garçon, de comment est-ce qu'on passe de la relation de fils par rapport à son père à la relation de père par rapport à ses enfants, et avec, évidemment, de grandes différences entre les filles et les garçons. Donc, il y a sans doute... enfin, moi, je lisais un peu le livre avec appréhension, quoi, en me disant, finalement, est-ce que l'auteur n'est pas en train de nous dire que l'histoire continue à être douloureuse parce que... quand on a des difficultés familiales, on se dit que lorsqu'on fondera sa propre famille, on sait ce qu'il ne faudra pas faire et on va essayer de construire les choses de façon très différente. Et quand on se heurte à de graves difficultés à nouveau, on s'est dit, mais alors bon sang, où se trouve le... Qu'est-ce que c'est que cette transmission des rôles ? Est-ce qu'il y a une sorte de prédestination ? Est-ce qu'on reproduit les choses ? Enfin bon... Donc, je comprends qu'il y ait de la colère et que, bon, un fils malheureux, dans un premier ouvrage, fait place un peu à un père malheureux. Bon. Alors voilà ce que. Bon, je crois que le mieux, c'est que je passe la parole à Lionel tout de suite pour qu'il nous dise comment justement il a envisagé cet ouvrage par rapport au précédent et par rapport à ce qu'il a à dire. Bon, il a dit dans beaucoup d'interviews que s'il écrivait, c'était pour écrire l'indicible. Autrement dit, il y a quelque part, j'écris ce que je ne peux pas dire. Donc c'est toujours difficile de demander à un auteur de parler de ce qu'il a eu autant de difficultés à écrire. Donc c'est toujours quelque chose d'un peu que je ne voudrais pas du tout impudique ou douloureux, mais en tous les cas, merci à Lionel Duroy de se livrer à cet exercice, de venir auprès de nous pour nous dire un petit peu sur son livre. Je lui demande bien volontiers de nous présenter un peu son ouvrage, et puis je relancerai par quelques questions. J'ai noté un certain nombre de choses que j'aimerais lui demander. Et puis bien sûr, après cette première séquence, eh bien c'est vous-même qui aurez la parole pour lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Et nous finirons, comme il est de coutume ici, par une séance de dédicace pour ceux qui le souhaitent. Quand on aura terminé, vous viendrez auprès de l'auteur qui, bien volontiers, dédicacera son ouvrage. Alors bon, colère, avec un S, une suite en tout cas dans votre vie probablement.
Je fais un préambule quand même pour expliquer un peu ce que c'est que le chagrin. Le chagrin, pour moi, c'est un livre très ambitieux. Le chagrin est un livre absolument autobiographique. C'était le souci. Je ne pouvais pas, en fait, me dire, supporter l'idée que j'allais un jour mourir sans être parvenu à transmettre et donc à mettre tout à fait dans un livre l'ensemble de ce que j'avais compris de la vie. Donc le chagrin arrive après une dizaine d'autres livres et après Prier pour nous, dont je parlerai un peu tout à l'heure. Mais le projet du chagrin, il nous concerne tous. C'est d'essayer d'expliquer dans un livre d'où vous venez et comment vous construisez votre vie en fonction de ce que vous avez reçu. C'est un projet en fait monumental dont j'avais évidemment sous-estimé la difficulté au départ. C'est de se dire, en fait, on ouvre les yeux sur le monde à 6 ou 7 ans avec un certain nombre d'idées dans la tête. Pour le dire vite, à 6 ou 7 ans, moi j'appelle les Arabes des Bougnoules et les Juifs des Youpins, comme mes parents. Ça, vous voyez, je résume très rapidement ce que j'ai dans la tête à 6 ou 7 ans. Ce sont pas des idées qui tombent du ciel. Ils tombent pas non plus de vos parents comme ça. Ça veut dire qu'en fait, vous naissez, et je considère que moi, je viens au monde, comme beaucoup d'entre vous probablement, autour de la guerre de 14-18. C'est en 14-18 que se crée, qu'est généré ce qu'on va appeler plus tard le vichysme. C'est une culture familiale qui concerne une grande partie de nous tous. Mes deux grands-pères ont été officiers pendant la guerre. Tous les deux reviennent très gravement blessés. Tous les deux mourront de leurs blessures. Et donc, leurs enfants sont très naturellement vichistes pendant la guerre. Mes parents, vous l'avez sans doute lu dans Le Chagrin, se marient exactement 10 jours après le débarquement. C'est pour vous dire dans quel état d'esprit ils sont. Ça veut dire qu'ils élèvent leurs enfants en leur transmettant ce que leur ont apporté leurs propres parents. Je dis ça parce que je trouve ça idiot de faire le procès des gens. Chacun fait comme il peut en fonction de ce qu'il a reçu. Mais ça veut dire que chacun, nous naissons très en amont du jour où nous venons au monde. Le projet du chagrin, c'était ça. C'était de révéler tous les ressorts secrets d'une vie pour expliquer ce qu'on reçoit dans sa vie, chacun, et ce qu'on va en faire, comment on va construire sa vie avec tout ça. Il se trouve que moi, c'est vrai, j'ai dû rejeter, balancer, parce que c'était absolument nauséeux, je le dis sans façon, mais très directement, tout ce que j'ai reçu était absolument nauséeux et j'en voulais pas, seulement on met un certain nombre d'années à s'en apercevoir. Outre les difficultés familiales qu'on a eues, puisqu'on a été expulsé, puisqu'on a été déscolarisé, etc., il vient un moment comme ça, autour de 16 ans, 17 ans, 18 ans, et pour moi essentiellement à 18 ans avec un professeur de philosophie, où en l'écoutant, tout d'un coup, J'ai compris comme ça, mais c'était immense que j'ai compris. J'ai tout d'un coup compris que la vie, c'était pas ce qu'on m'avait dit, quoi. C'était pas du tout comme ça, en fait. Que la vie, ça se résumait pas à vivre dans un clan avec des parents qui vous abrutissent d'idiotie. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour parler de ça. Un clan extrêmement fermé comme ça, fermé à tout, fermé à la pensée, avec, abreuvé par des penseurs qui sont absolument sans intérêt. Ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a fait un entretien à la radio tout à l'heure, il faut lire Maurras, il faut relire Maurras aujourd'hui pour comprendre. Mon père, c'était Maurras, voilà. Bon, donc... voilà. Et tout d'un coup, écoutant ce professeur de philosophie, c'était comme si les fenêtres du monde s'ouvraient. C'est-à-dire, tout d'un coup, c'est extraordinaire, quoi. Vous vous dites, ah, mais le monde, c'était pas ça, c'était pas ce qui s'est passé durant toutes ces années. C'est bien plus intéressant, mais c'est en même temps immense tout ce qu'il va falloir rattraper. Ça veut dire qu'on passe par une phase de reconstruction, de déconstruction et de reconstruction. Donc, le projet du chagrin, c'est ça, c'est-à-dire c'est de partir très en amont et de parvenir à raconter toutes les étapes de construction d'une vie. Et donc aussi de ne jamais éviter ce qui est très compliqué à expliquer, c'est-à-dire les répercussions de ce que vous avez vécu sur la suite. Par exemple, j'en parle là un peu parce que je vais en parler après en parlant de colère, mais... il est évident que lorsqu'à 10 ou 12 ans, vous voyez votre mère se rouler par terre ou partir à l'hôpital psychiatrique, c'est compliqué ce que ça vous imprime dans la tête et que tout ça va avoir des conséquences sur la façon dont vous allez regarder la première femme que vous avez envie d'aimer. Toutes ces choses-là, c'est une multitude de sentiments, d'impressions, de répercussions. Toutes ces choses-là, je voulais qu'elles soient dans un livre. Elles sont autobiographiques, mais en écrivant ce livre, il m'a semblé que je tenais un propos universel sur ce que c'était que vivre. Parce qu'il me semble que tous, on pourrait écrire un livre semblable. Le chagrin, et puis ensuite je vais passer à colère, j'ai beaucoup aimé ce titre et j'ai voulu ce titre, parce qu'il me semble qu'on est tous faits d'un double chagrin. Il y a le chagrin historique, national, qui est celui dont je parlais, le fait que nous sommes bien souvent issus de parents qui ont été du mauvais côté, c'est-à-dire vichistes pendant la guerre plutôt qu'être résistants. Et ça, c'est un chagrin très français, comme il y a eu le chagrin des Belges, qui est un livre magnifique écrit par Hugo Claus. Ce chagrin-là, ce chagrin français... est pour moi très important. Il est constitutif de ma vie. J'ai toujours pensé que si mon père avait été résistant, il n'aurait pas été un homme méprisé, expulsé, chassé et sans amis. Parce que les gens qui ont été résistants, donc qui ont été du côté des vainqueurs, ont été entourés d'amis, ont été soutenus, ont eu un monde intellectuel autour d'eux intéressant. J'ai assez tôt regardé mon père comme quelqu'un qui avait été vaincu par la grande histoire. C'est de ce chagrin dont je parle là. Et puis, il y a un chagrin beaucoup plus personnel, qui est le chagrin de notre famille. Et donc, ce livre-là, je voulais qu'il soit les deux. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas raconter une vie aussi longue que la mienne, parce que je suis quand même assez vieux, sans l'inscrire dans l'écrin de l'histoire nationale. Voilà, je suis né en Tunisie, ensuite j'ai vécu en France. C'est notre histoire, on la partage tous. On ne peut pas raconter sa petite histoire comme ça, tranquillement, en oubliant qu'il y avait la guerre d'Indochine, qu'il y a eu la guerre d'Algérie, etc. etc. Tout ça est forcément imprégné, nous imprègne notre âme, imprègne notre regard sur le monde tout le temps. Et donc... écrire le chagrin était cette ambition, et pour moi c'était presque une cathédrale, je l'ai réalisé en l'écrivant, parce qu'il fallait tout faire entrer dedans. Voilà. Lorsque j'ai eu fini le chagrin, qui d'une certaine façon avait la même importance dans ma vie que 20 ans plus tôt, Priez pour nous, qui était le premier livre vraiment important dans ma vie, j'en avais écrit d'autres avant, mais c'était un livre très important, fondateur, parce que j'expliquais pour la première fois d'où je venais, mais sans aller au-delà, c'est-à-dire c'était pas le même projet que le chagrin. Lorsque j'ai fini le chagrin, il s'est passé un peu la même chose que ce qui s'était passé après l'écriture de Priez pour nous, de façon assez curieuse, à 20 ans d'écart. Juste après Prier pour nous, je pensais, avec une espèce d'ingénuité, avoir écrit un livre qui aurait pu fédérer mes frères et sœurs, voilà, puisque c'était au fond les années les plus terribles de notre enfance commune. Et il s'est passé exactement le contraire. J'étais de bonne foi, puisque je l'avais même dédié à ma sœur aînée Chantal, c'est pour vous dire à quel point j'étais de bonne foi. Et en fait, mes 9 frères et sœurs ont été horrifiés par ce livre et m'ont dit « si tu le publies, on ne te parlera plus jamais ». Et j'ai pris la résolution, la décision de le publier. Et je ne le regrette pas, c'est une parenthèse importante. Je pense que lorsqu'on sort comme ça d'une famille nombreuse, mais peut-être d'une façon générale dans la vie, il y a un moment où il faut payer le prix, il peut être plus ou moins élevé, de sa liberté de pensée et de parole. Et lorsque vous sortez d'une famille nombreuse, si vous ne payez pas ce prix, et ben vous allez rester à votre place. Et moi, je suis le 4e de 10, et donc je reste sous l'autorité des aînés, comme dans toutes les familles nombreuses, qui fonctionnent généralement en clan. Vous pouvez assister à des réunions de familles nombreuses, c'est toujours comme ça. Chacun reprend sa place, il y a les petits, les moyens, les grands, et voilà, toute votre vie. Et donc, je crois qu'il faut casser ça, parce que chacun doit vivre sa vie de façon autonome. Donc, forcé par les événements, après Prier pour nous, j'ai donc rompu avec tous les miens. Voilà. Mais ça a été si difficile, en fait, que pendant 2 ans, j'ai plus pu rien écrire du tout. Donc c'était vraiment très, très douloureux. Très douloureux, en fait. Mais comme ça l'est toujours, c'est une forme de deuil, en fait, de rompre avec les siens. Et 20 ans plus tard, donc, après avoir écrit Le Chagrin, qui avait la même ampleur pour moi, littéraire et psychologique, il s'est un peu passé la même chose. C'est assez étrange. La naissance de ce livre a provoqué un certain nombre de tremblements ou de séismes dans ma vie, comme ça, assez douloureux. Je crois que mon fils n'a pas supporté la publication de ce livre. Il a rompu avec moi de façon très violente et j'ai toujours pas compris. C'est intéressant, j'ai fait un entretien là tout de suite à la radio et la jeune femme me disait vous vous en êtes pas rendu compte, mais colère est contenue dans les dernières pages du Chagrin. Je dis ça parce que je réfléchis en parlant, je le dis à chaud et non, je m'en étais pas rendu compte, mais c'est vrai qu'en fait en y ressongeant, dans les dernières pages du Chagrin, je parle d'une espèce de tremblement que j'ai comme ça dans ma relation amoureuse. J'étais très troublé par toutes ces choses-là, comme si j'étais devenu hypersensible d'avoir écrit ce gros livre pendant des mois. Et donc, après la publication du Chagrin, il s'est passé comme ça une espèce de petit séisme dans ma vie, où j'ai eu le sentiment que tout ce que j'avais construit était en train de se déliter et de se déconstruire et de s'effondrer. Mon fils a rompu avec moi. J'avais l'impression que mes filles étaient pressées de prendre leur autonomie et de s'en aller. La femme que j'aime, tout d'un coup, m'a dit « j'ai besoin de prendre l'air », a pris son appartement. Et tout d'un coup, j'ai vu une espèce de désert comme ça se créer autour de moi. Et toute la vie comme ça s'effondrait. Et au contraire du lendemain de Prier pour nous, j'ai voulu rester debout. C'est-à-dire, je me suis dit, ça fait 30 ans que j'écris, je vais très mal, je trouve ça très dur, tout ça, j'ai beaucoup de mal à le supporter, mais je vais écrire. Je trouve qu'écrire, c'est toujours très beau, quoi. Quelqu'un qui écrit, c'est ce qui nous rend notre dignité. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve que dans la condition terrible qui nous est faite de devoir mourir, donc de naître pour devoir mourir un jour, au fond, la seule façon d'être debout et de résister, c'est d'écrire. Parce que écrire, c'est quand même extraordinaire, quoi. Vous êtes dans le bateau qui est en train de couler et jusqu'au dernier moment, vous continuez à écrire. Et je trouve que ça nous rend notre dignité. Voilà. C'est quelque chose que je pense très profondément, donc je vous le dis comme je le pense. Et donc, je me suis mis à écrire. J'ai écrit un livre qui m'intéresse beaucoup, maintenant qu'il est fini, que je peux en parler avec un tout petit peu de recul. J'ai écrit un livre qui est très tremblé, en fait. Colère est un livre très particulier, qu'on ne peut écrire, je pense, que dans cet état-là, comme ça, d'extrême souffrance et de tremblement, et qui m'intéresse beaucoup, beaucoup littérairement, parce que, au contraire du chagrin, je parviens à saisir, dans cette écriture quotidienne prétendue, l'immédiateté de la vie, comme ça, l'immédiateté de la souffrance. Lorsque le sol se dérobe sous vos pas parce que vous avez un deuil ou quelque chose qui vous blesse énormément, si vous parvenez à écrire à ce moment-là, vous saisissez quelque chose de la vie que vous ne parvenez pas à saisir dans les autres livres. Le chagrin et tous les autres livres que j'ai écrits sont des livres où j'étais assez serein quand même, où je me mettais au travail et je réfléchissais et je travaillais. Lorsque j'ai écrit Colère, j'étais, je ne sais pas comment dire, je manquais de souffle, quoi, tellement j'étais mal. Quoi. Vous savez, c'est ces états où vous vous dites, il vaut mieux que j'aille voir un médecin là, parce que je vais vraiment aller très très mal. Et au lieu d'aller voir un médecin, vous écrivez. Et donc vous parvenez en fait à mettre en mots quelque chose d'indicible, vous le disiez tout à l'heure, j'ai toujours été fasciné par l'indicible. Je pense que l'écriture, ça doit parvenir à dire quelque chose qui est secret qu'on ne voit pas là, quelque chose qui est caché derrière, comme la peinture. J'aime beaucoup la peinture aussi. Donc il faut parler avec les peintres parce qu'ils vous expliquent toujours qu'ils essaient de dire quelque chose qu'on ne voit pas dans la vie. Comme on ne le voit pas, on ne sait pas comment l'exprimer et eux vont arriver à l'exprimer. Et lorsque j'écris Colère, j'ai le sentiment de parvenir à dire quelque chose que, dans le quotidien, normalement, on ne dit pas. Soit on ne va pas oser le dire, soit on ne souffre pas assez pour devoir le dire, soit on trouve que ça va, la vie est suffisamment difficile sans être obligé d'essayer de dire les choses qui nous font trop souffrir. Si, ça fait partie de la vie, donc c'est intéressant. Si, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de le saisir et de l'exprimer. Voilà. Et ce livre a été, pour moi, un exercice d'écriture d'une densité extrême. Et j'ai beaucoup aimé Jérôme Garcin a senti ça. J'en parle juste parce que ça m'a beaucoup touché qu'il parvienne à le formuler dans les 3-4 dernières phrases de la critique qu'il a fait dans l'Obs. Il dit, je ne sais pas comment il le dit, mais il le dit bien mieux que ça, mais il dit, c'est presque un miracle que ce livre soit entier. Et pendant que j'étais en train de l'écrire, je me disais, c'est un miracle que je puisse continuer à l'écrire tous les jours, et si je ne parviens pas à tenir jusqu'à la fin, c'est comme si je ne l'avais pas commencé, parce qu'un livre, il faut savoir le finir. Et donc c'était un objet très tendu, et j'avais tout le temps peur de craquer et de ne pas parvenir à le finir. Et donc, quand Garcin écrit ça, je me dis, ah, c'est bien, parce qu'il a ressenti dans l'écriture que c'était très fragile, que ça pouvait se casser, et que c'était difficile de tenir la musique juste jusqu'au bout. Voilà. Et j'ai tenu jusqu'au bout, j'ai écrit 3 mois et 10 jours, je crois, et quand je suis arrivé à la fin, j'ai très bien vu que j'étais à la dernière scène, et j'étais vraiment heureux, quoi. Et j'étais fier de moi aussi. J'étais content, j'avais écrit 3 mois et 10 jours, et j'étais parvenu à mettre dans un livre exactement ce moment-là, comme ça, des moments qu'on peut tous partager à un moment, mais qui sont particulièrement difficiles à exprimer, parce qu'ils sont dans l'immédiateté, comme ça, de la douleur ou de la violence de la vie. Pardon.
Mais non, pas pardon.
Non, mais j'ai parlé, je vous ai pas laissé le temps de poser une question.
Non, moi je suis... Non, pas du tout. On est là pour vous écouter. Alors, je voudrais redire, après tout ce que vous venez de dire, que finalement, vous avez décidé de mettre roman sur les couvertures de ces deux ouvrages. Or, vous nous dites très clairement, il s'agit d'une autobiographie, il s'agit de ma vie. On n'est pas dans l'autobiographie fictionnelle.
Non, c'est absolument autobiographique. Alors, c'est une question très intéressante dont on peut partager la problématique, parce qu'en fait, j'ai pas vraiment la réponse à ça. Le chagrin, je l'avais appelé le chagrin, mais j'avais marqué dessous autobiographie. Donc c'était très dit, hein, c'était indiqué chez Julliard et tout ça, que j'écrivais mon autobiographie. Alors, ensuite, on a un problème très compliqué de terminologie. Si on dit « j'écris mon autobiographie, donc je fais d'une certaine façon une forme de rapport sur moi-même ou de journalisme sur moi-même », ça s'appelle un récit. Et un récit, pour moi, c'est extrêmement réducteur. C'est comme le récit que va faire un commissaire de police sur un fait divers. C'est un récit. C'est-à-dire qu'il va vous raconter exactement, minute par minute et jour par jour, avec les noms, ce qui s'est passé. J'ai absolument pas le sentiment de faire ça quand j'écris. Pas du tout. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça va pas s'appeler roman, je sais pas comment ça s'appelle. Et il y a, lorsqu'on écrit, aussi bien Le Chagrin que Colère, il y a comme ça une musique, un souffle qui naît de l'écriture. Comme quand on peint ou quand on sculpte à un moment... On est emporté par quelque chose d'assez fort comme ça, qui structure la pensée, qui n'a pas de rapport avec le journalisme ou avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le récit d'enquête d'un policier. Vous vous en rendez bien compte parce que vous mettez dans la description des scènes des mots qui donne à la scène comme ça un volume, une densité, une émotion, une tristesse, toutes ces choses-là, ça s'ajoute au factuel. Donc si je fais une autobiographie, je vais faire du factuel. Or, vous voyez bien que si je vous raconte mon autobiographie, au bout de 60 pages, j'ai fini. Or, j'en écris 600 là, donc il y a un problème. Ça veut dire qu'en fait, je fais entrer dedans beaucoup plus que du récit. Donc, à partir du moment où moi je considère que c'est de la littérature, que c'est de la littérature, comme on pourrait dire, que c'est une forme d'œuvre d'art, je décide de l'appeler roman. Voilà. Mais je le décide en accord avec mes éditeurs. Parce que je ne trouve pas que c'est un récit. Voilà. Ensuite, il y a la question des noms. Alors, pour bien signifier que Le Chagrin était absolument autobiographique, la première version comprenait tous nos noms. Je m'appelais Lionel Duroy de Sudbureau dans Le Chagrin. Quoi. Voilà, c'est clair, et tous mes frères et sœurs portaient leur nom. Et puis, au dernier moment, on a décidé avec mes éditeurs, par égard pour mes frères et sœurs que je ne vois plus depuis 22 ans, de mettre les mêmes noms que dans Priez pour nous, c'est-à-dire des noms qui leur permettent d'être protégés. Donc on a enlevé du roi de Sudureau, on a mis du Noyer de Pranassac, et puis j'ai repris les prénoms de Priez pour nous. Donc du coup, j'ai plus pu m'appeler Lionel dans mon autobiographie, je me suis appelé William, mais partout où je pouvais, j'ai laissé les prénoms. Mes enfants portent leurs vrais prénoms, c'est Raphaël, Julia, Sophie et Pauline. Voilà, ça c'est leur vrai prénom. Lorsque j'écris Colère, c'est différent. Lorsqu'on se met à écrire comme ça, ça c'est très sensuel en fait, et puis ça, c'est très subjectif aussi. Vous choisissez les prénoms qui vous permettent d'avoir la juste distance par rapport à votre texte. J'aurais très bien pu, commençant à écrire Colère, m'appeler Lionel dans Colère. Sauf que si je m'appelle Lionel et si j'appelle ma femme et mon fils par leur vrai prénom, j'arrive plus à écrire. Parce que je me sens trop près de la réalité. Donc, c'est des choses qui se sentent tout de suite hein, quand vous vous mettez à écrire. Donc, j'ai fait une chose que je trouve pas mal, finalement. J'ai pris les mêmes prénoms que dans le Cahier de Turin. Le Cahier de Turin, c'est un livre que j'ai écrit il y a 7 ou 8 ans sur mes enfants, dans lequel il y a ma femme. Il y a toutes ces choses très belles de la vie, comme ça, de se regarder, de s'aimer, de regarder les enfants grandir et tout ça. J'avais envie d'écrire un livre là-dessus. Je l'ai appelé « Le Cahier de Turin ». Et donc, je m'appelle dedans Marc, Hélène, mes enfants ont les prénoms, tout ça. Et j'ai trouvé que « Colère », qui était donc ce livre dont je viens de parler, l'immédiateté comme ça de ce délitement ou de cette souffrance saisie dans l'instant, était d'une certaine façon la suite du Cahier de Turin. À la beauté comme ça du Cahier de Turin succédait un moment d'extrême tempête comme ça, où j'avais l'impression que tout se fissurait et que tout était en train de se casser la figure. Et donc ça me convenait bien de prendre exactement les mêmes prénoms, j'ai pensé ça. Donc j'ai pris sur mon bureau le cahier de Turin, j'ai regardé, j'allais me mettre à écrire, et j'ai trouvé que c'était la bonne distance, et d'ailleurs tout de suite c'est parti, voilà, je me suis mis à écrire et j'étais bien. C'était cohérent que Colère pouvait être la suite du cahier de Turin, et qu'avant tout je devais être au moins à l'aise avec tous ces prénoms, parce que ça allait être très dur de l'écrire ce livre, ça je le savais, voilà. C'est un roman, c'est... Je ne peux pas vous dire que Colère est un récit, quoi. C'est aberrant, quoi. Donc, mais la problématique est juste, c'est-à-dire, je n'ai pas de mots pour appeler ce que je fais, parce que je n'ai pas envie d'écrire des romans, ça ne m'a jamais intéressé, j'en ai écrit 2-3. Je m'ennuie presque en les écrivant. C'est un peu comme le journalisme, c'est-à-dire les personnages dans les romans, c'est chacun un petit tiroir comme ça. Alors même si on essaie d'être très fin, d'affiner et tout ça, c'est quand même assez caricatural, quoi, les personnages des romans. Et donc, d'ailleurs, les auteurs que j'aime, moi, n'écrivent pas de romans. Je lis Thomas Bernhardt ou Tamsoun, Rilke, Vassili Grossman, je sais pas, je pouvais, Philippe Roth, je peux en citer comme ça 60 de suite. Je sais très bien que ce sont des gens qui écrivent extrêmement près d'eux. Et c'est ça qui m'intéresse. Je trouve que ce qu'on apporte, ce qu'on partage ensemble, en fait, et c'est pareil en peinture, c'est une façon de parvenir à dire des choses qui nous touchent tous. Et pourquoi les dire à travers des personnages de romans qui caricaturent un peu l'extrême difficulté, l'extrême sensibilité de ce qu'on ressent? Voilà, je suis écrivain, je trouve. Voilà, je n'ai pas osé le dire pendant longtemps, mais moi, je me trouve très profondément écrivain, mais je n'ai pas du tout envie d'être romancier. Non, je ne me trouve pas romancier du tout. Je n'ai pas envie d'écrire des romans. J'écris tous les jours, tout le temps, j'écris tout le temps. Et plus j'écris sur la vie. C'est-à-dire ce que je vois là, ce que je sens, ce que je pressens, ce qui nous échappe, ce qui nous fait peur, l'effroi, les choses comme ça, voilà. Tout ce qu'on partage, et puis notre extrême fragilité, et cette fragilité-là me touche beaucoup, je veux écrire dessus. Et ça ne m'intéresse pas de placer artificiellement dans une histoire romanesque. Voilà, j'écris Colère. Colère, je trouve que pour moi, c'est un très important, Colère. Je suis extrêmement content de l'avoir écrit.
Le chagrin, vous l'avez dédié à Blandine, Pauline, Sophie, Julia, Raphaël, donc les vrais noms de votre épouse et de vos quatre enfants.
Oui.
Colère n'est pas dédiée.
Non. Non, non. Ben non, Colère, il est dédié à vous. Il est dédié à personne. J'avais envie de le dédier à personne, non. Non, Colère, c'est un... Comment on pourrait dire, cette espèce de marathon que vous menez tout seul, quoi. C'est un truc que vous menez tout seul contre le deuil, contre la colère que vous avez contre les choses de la vie, contre ce que vous avez raté. Colère, pour moi, c'est un livre de réflexion sur comment mon fils a pu me mettre en échec alors que je voulais être un bon père. Et donc, écrivant sur mon fils... je me suis retrouvé à écrire sur mon père, sur comment on apprend à être père. Et je n'ai pas appris à être père. Et pourtant, mon père, en dépit de tout ce qu'il a fait dans la vie, je pense que ça a été un vrai père. C'est-à-dire qu'en dépit de toutes les dettes, de tous les huissiers, de tous les gens qui l'ont pourchassé toute leur vie, c'était un homme debout malgré tout. Voilà. Ça, c'est un truc que j'ai compris. Mais vous voyez, il faut des années pour comprendre ça, en fait. C'est un homme debout. C'est-à-dire que à 30 ans, j'étais scandalisé qu'il n'ait pas été résistant et qu'il se soit marié 10 jours après le débarquement. À 40, à 50, j'étais en train de me dire « mais c'est incroyable parce qu'il est courageux quand même ». Alors qu'on était en plein naufrage, qu'on était 10, que ma mère partait pour l'hôpital psychiatrique, qu'elle démissionnait de tout, qu'on était vraiment pourchassés, quoi, comme c'est pas possible... mais continue à aller travailler, lui, tous les jours, dans sa vieille bagnole. Et donc, ça, c'est le courage. Ça, c'est vrai, c'est vraiment du courage. Mais, écrivant Colère, je réfléchissais à ce que c'était qu'être père. De fait, mon fils m'a mis en échec comme père. Alors, je méditais beaucoup sur ce qu'il m'a fait. Il me fait un truc super curieux. il parvient à... J'étais évidemment caution pour son loyer. Il parvient à se tirer, à me tromper donc, à tromper ma confiance, et à ce que je me retrouve poursuivi par les huissiers pour tous ces loyers impayés. Voilà, si je le dis vite. Et donc il me plonge dans la situation où j'étais quand j'avais 10 ans, où j'étais obligé de gérer un huissier ou deux par jour à la maison. Et moi qui n'ai jamais de dette, à mon âge aujourd'hui, n'ayant jamais eu de dette, ne disant jamais bonjour à un huissier, détestant cette profession, me demandant même comment ça peut exister, voilà que je suis obligé d'appeler des huissiers et de traiter avec eux, quoi. Et ça me met dans un état de colère, je ne peux pas vous dire. Mais d'autant qu'ils me raccrochent au nez, quoi. Je dis, je veux vous payer, monsieur. J'ai été obligé de dire, c'est un huissier qui était à Lyon. Je dis, monsieur, si vous ne me dites pas immédiatement combien je vous dois, je suis demain matin dans le train, et à midi, je suis dans votre étude, quoi. Et vous allez voir ce qui va se passer, quoi. Je vous assure, j'avais un mail par retour de courrier avec la somme que je devais, quoi. Donc j'ai fait le chèque, je suis allé le poster immédiatement, et pour la première fois, j'ai dormi, quoi. Ça faisait 10 jours que je ne dormais plus. Je ne peux pas supporter avoir des dettes, et je ne peux pas supporter parler à un huissier. Et donc, mon fils me met dans cette situation. Donc, vous voyez, c'était évidemment très intéressant d'un point de vue intellectuel. D'un point de vue cardiologique, c'est plus compliqué à gérer parce que c'est quand même compliqué, quoi. Mais voilà, ça me posait cette question parce que je m'en fous de l'argent, c'est pas ça qui compte. Ce qui m'intéressait, c'était ce que me disait mon fils. Il était en train de me dire que j'avais été un mauvais père, et moi, j'avais essayé d'être un père comme mon père m'avait appris à être père, c'est-à-dire que je suis incapable de faire acte d'autorité avec mes enfants. Donc, heureusement, mes filles, elles sont très adorables, très mignonnes. Je ne suis absolument pas autoritaire. Je ne peux pas. Mon père n'était absolument pas autoritaire. Je pense que ça s'apprend, ça aussi, à être un père. À dire non, c'est comme si et c'est pas comme ça. Moi, je ne sais pas dire ça. Donc, oui, c'est comme si et comme ça, ouais. Je discute, je dis, bah oui, tu as peut-être raison, ouais, c'est intéressant et tout ça. Je pense que j'ai fait ça avec mon fils pendant des années, qu'à un moment, il a dû se dire, non, il m'emmerde, lui. Il pense quoi, au juste? Il est pour ou contre? Voilà. Et que je dis toujours, mais non, on peut parler, ouais, c'est intéressant. Tu peux faire tel film, on peut y réfléchir ensemble. Oui, ou le fais pas, ou ceci et tout ça. Bon, voilà. Il y a toute une façon comme ça que j'avais avec mon père, et qui fait que je ne sais pas être un père de famille, vous savez, comme ça, la prière, le bénédicité, tout ça. Je ne sais pas faire. Et mon fils m'a bien signifié, à travers ce qui s'est passé au printemps, que j'avais échoué avec lui, voilà. Et pas du tout avec mes fils. C'est d'ailleurs intéressant, parce que ça ne se passe pas du tout comme ça avec mes filles. Voilà, c'est pas hasard. Mais toutes ces choses-là, voilà, je voulais écrire à chaud là-dessus, et beaucoup d'autres choses aussi, très secrètes, très intimes, comme ça, qui nous traversent tous. Pour le dire vite, en fait, je pense qu'en vieillissant, on devient beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin, et que plus on vieillit, plus on devient intelligent, et que ça finit par poser un problème d'être aussi intelligent, alors que la vie est si compliquée. Hein ? Vous trouvez, enfin, moi, je trouve beaucoup, hein. C'est vraiment très difficile, parce que, sauf qu'à 30 ans, on est merveilleusement idiot, quoi. C'est-à-dire qu'on fait tout très naturellement et très facilement. Par exemple, les relations amoureuses, je trouve qu'à 20 ou 30 ans, c'est très naturel, c'est très facile, on n'y réfléchit pas. Et puis, plus on vieillit, plus on trouve ça troublant, extrêmement beau et extrêmement troublant. Et donc, ce trouble-là rejaillit sur le quotidien. Voilà, et tout devient plus difficile, plus fragile, plus difficile à décrire. Voilà, et c'est là-dessus que je voulais écrire. C'est sur toutes ces choses-là.
En lisant votre livre Colère, je me disais, je me posais la question de bon, le regard qu'on porte sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est. On l'écrit, et lorsqu'on l'écrit, est-ce que ça ne crée pas une distance avec la vie? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une sorte de piège autour de... Enfin, une sorte de coque autour de soi quand on écrit? Autrement dit, est-ce que votre rigueur pour écrire de façon absolument régulière, parce que c'est vital aussi, Le fait que ce soit une règle absolue par rapport à votre entourage. J'écris de telle heure à telle heure et je ne suis pas dérangé. C'est une priorité. Le fait de réfléchir à votre vie presque en l'arrêtant partiellement, est-ce que ça n'est pas une façon aussi d'influencer les choses, même indirectement? Autrement dit, est-ce que c'est si neutre que ça? Enfin, c'est la question que je me pose... un peu comme dans une psychanalyse, quoi. C'est-à-dire agir et se regarder agir. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on privilégie l'un des deux, quoi? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est une question que je pose.
Si. Je pense que vous avez forcément raison. C'est-à-dire que on ne peut pas innocemment, comme ça, tous les jours, travailler sur les sentiments, sur ce que c'est que vivre, sur comment on fait, sans que ça rejaillisse évidemment sur la vie. Mais comment je pourrais dire c'est un choix, enfin... Moi, je trouve que c'est inépuisable, tout ce qu'on peut dire sur la vie, sur les sentiments. Je réfléchis en parlant, parce que ce que vous me dites me trouble un peu, c'est-à-dire que... j'ai l'impression qu'en fait, plus on écrit, plus on se fragilise, voilà. Parce que la journaliste avec qui je parlais tout à l'heure, elle me dit « Alors maintenant que vous avez fini le chagrin, vous vous sentez mieux ?» Et moi, je trouve que le chagrin m'a beaucoup fragilisé, voilà. Donc ça m'amène à dire, en réfléchissant comme ça, pour répondre exactement à votre question d'ailleurs, qu'à force d'écrire comme ça sur les choses de la vie, sur les secrets, sur les mystères, en fait, on se fragilise parce que c'est incroyablement effrayant ou éphémère ou troublant, en fait, tout ce qui se passe dans la vie. Et qu'évidemment, je reprends dans la figure comme une claque que je disais à 30 ans quand j'ai commencé à écrire. Je disais, je ne veux pas de métier, moi, je veux que mon métier soit de réfléchir sur ce que c'est que vivre. Donc, je ne veux pas qu'on me distrait de ça. Donc, je ne veux pas être pilote d'avion ou chauffeur de voiture. Je veux rester à ma table et je veux écrire. Et comme activité, je veux faire du vélo. C'est tout. Mais je n'ai pas envie de travailler pour qui que ce soit. J'ai été obligé d'être journaliste pendant un certain nombre d'années parce que je ne pouvais pas être publié. On ne peut pas être publié comme ça d'emblée, si vous voulez. Mais mon dessin... EIN, c'était de me consacrer à écrire sur ce que c'était que vivre. Donc c'est pour ça que le chagrin, c'était un peu l'accomplissement quand même de beaucoup d'années de travail. Mais ce que je trouve, et je le dis aujourd'hui parce que je le réalise en fait avec les années, mais je l'ai surtout réalisé avec le chagrin, c'est que à force d'écrire comme ça, en fait, vous vous fragilisez, vous atteignez les couches profondes de votre être. Et puis, il n'y a plus rien qui vous protège, en fait. C'est vrai que de temps en temps, vous vous dites « J'aimerais bien être léger, heureux comme tout le monde, voilà, de conduire mon autocar. Je veux faire du ramassage scolaire. » Je me souviens d'ailleurs quand j'écrivais « Priez pour nous » parce que je souffrais pas mal et je prenais le bus à l'époque. Maintenant, ça ne m'arrive plus. Mais je voyais le chauffeur de bus, je me disais « Je trouve qu'il a de la chance de conduire son bus. » Il conduit, puis ensuite il rentre chez lui, il regarde sa télé, il se couche, il recommence le lendemain. Et moi j'écrivais « Priez pour nous » et c'était vraiment une souffrance de revivre tout ça. Et non, bon voilà, au final aujourd'hui je suis content d'avoir passé ma vie à écrire, mais je trouve qu'on ressort comme ça plein de tout frileux et souffreteux en fait d'écrire tout le temps. Ouais, c'est fatigant quoi. Mais c'est tellement intéressant et troublant, la vie. On a jamais fini, en fait. Je ne vous ai pas trop découragé, là, ça va.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur votre travail d'écriture? C'est-à-dire, on en a déjà un peu parlé, vous êtes très régulier et rigoureux, mais comment est-ce que vous vous organisez? Est-ce que vous écrivez à la plume, si on peut dire, ou est-ce que vous êtes à la tête de l'ordinateur? Est-ce que vous êtes du matin, du soir, tout le temps? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Bah, plein de choses, en fait. J'ai écrit à la plume jusqu'en 2000. J'ai tous mes premiers manuscrits écrits au stylo. Et puis, je me suis acheté un Mac comme ça au début de la décennie, en 2000-2001, je crois. Et tout d'un coup, c'était formidable, quoi. Je trouve que c'est d'une... Je trouve qu'un ordinateur, c'est extraordinaire, parce que bon, j'ai toujours tapé vite avec les 10 doigts. Vous savez, moi, je n'écris pas, par exemple, pendant 10 minutes, comme ça, je réfléchis intensément, et puis tout d'un coup, j'écris la phrase. Et à la main, ça va très lentement. Et avec l'ordinateur, ça sort tout propre comme ça. Et vous voyez la musique du texte, vous voyez, c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment un outil formidable, un Mac, je trouve, pour écrire. Bien, bien mieux que le stylo, alors que je disais le contraire du temps que j'écrivais à la main. Je disais, non, c'est formidable, je corrige mes trucs et tout ça. Et mes manuscrits, c'était des gros tas illisibles, il y avait des flèches qui menaient derrière et tout ça. Donc au moment où vous lisez, vous suivez la flèche avec des mots dans tous les sens. Alors qu'aujourd'hui, avec un Mac, c'est merveilleusement limpide. Ça aide beaucoup le travail intellectuel.
Mais les brouillons d'écrivains font le plaisir des généticiens, hein, ensuite, c'est
ça. Ils ne vont plus le faire maintenant, en fait, parce que je crois qu'il n'y en a plus beaucoup qui écrivent à la main. Il y a encore Max Gallo qui écrit sur une machine à ruban. Alors, il cherche ses rubans un peu partout, parce que ça se trouve de plus en plus difficilement. Il n'y en a plus beaucoup qui écrivent à la main, je crois. Et sans ça, moi, j'écris toujours le matin. J'écris tout de suite en me levant. Et je vois que dès 3-4 heures de l'après-midi, si pour un peu qu'il y ait 3-4 personnes qui vous aient téléphoné, on a le cerveau qui s'obscurcit comme ça et on n'a plus du tout la qualité de... la finesse, comme ça, la qualité d'écriture qu'on a en se mettant tout de suite le matin. Comme ça, je prends un petit déj et je me mets tout de suite à écrire. Et donc, il y a toujours, au moment où on se met à écrire pendant une heure, une espèce d'extrême tension intérieure, comme ça, parce que vous relisez ce que vous avez écrit depuis 2 jours, quoi, pour vous relancer dans le livre. Et il y a toujours l'angoisse, en fait, de ne pas re-rentrer dans le livre et donc de ne pas y arriver. Toujours. Hein, et en fait, donc, pendant cette première heure-là, il ne faut vraiment pas être dérangé du tout. Il faut vraiment être dans un silence absolu. Je ne supporte pas qu'il y ait un truc qui me dérange. Parce que ça peut vous casser toute la journée, en fait. Mais après cette heure-là, quand vous avez relu et que vous avez commencé à réécrire les premières phrases qui enchaînent, après c'est parti, en fait. Pendant 3-4 heures, c'est bien. Même le facteur qui vous dérange et tout ça, c'est pas grave. Vous remontez à toute vitesse, vous êtes dedans, quoi. Et ça tient 5 heures, ça tient 5-6 heures. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête. Vous êtes fatigué, vous n'avez plus envie, quoi. Et là, il faut arrêter, il ne faut pas forcer, parce que c'est très dangereux de dire à 6 heures du soir, « Ah ben tiens, je vais relire ce que j'ai fait le matin. » C'est comme si vous reveniez de l'étranger. Hein. Ça vous paraît totalement insolite. Vous avez décollé du texte pendant 3-4 heures. Et si vous essayez de vous y remettre alors que vous n'avez pas l'esprit très clair, vous allez écrire 2-3 phrases mauvaises qui vont vous faire partir sur un mauvais truc. Et le lendemain, ça va être catastrophique.
La plupart de vos ouvrages ont été publiés chez Julliard, ce qui laisse à penser que vous avez une relation de fidélité, oui, avec l'éditeur, si on peut dire. Vous pouvez dire un mot de vos relations avec l'éditeur, j'allais dire l'éditeur personne, quoi, l'écrivain et l'éditeur.
Oui, c'est une relation très très importante, enfin pour moi très importante, parce que Betty Mialet et Bernard Barrault, qui sont mes éditeurs depuis toujours, depuis avant Priez pour nous.
Curtis est un nom.
Oui, celui que j'appelle Curtis dans mes romans. Ce sont deux personnes très importantes dans ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'étais journaliste à Libération. Je voulais arrêter et me mettre complètement à écrire. Et c'est très compliqué, le passage. Il n'était pas question que je continue à être journaliste. J'en pouvais plus, ça me rendait dépressif. J'avais publié... j'avais publié qu'un seul livre avant de les rencontrer, avec un éditeur que je n'aimais pas. Et donc, il s'est passé comme ça, ça s'est passé, je crois, vraiment la vraie rencontre autour de la Calédonie. C'est-à-dire que quand il y a eu les événements en Nouvelle-Calédonie, pour moi, c'était un retour d'enfance sur la guerre d'Algérie, que j'avais vu enfant, et que sur lequel j'aurais voulu tellement écrire, quoi. Tellement parler des Algériens, parler de tout ça, parler des pieds noirs, tous ces gens qui me touchaient beaucoup. Et j'avais complètement raté, puisque j'étais petit, et puis voilà, il y avait, avec mes parents, il y avait les Bougnoul, et puis, bon, etc. Revenons pas là-dessus. Mais quand arrive la Calédonie, je veux écrire sur les Caldoches et les Kanaks. Je veux vraiment, comme régler un compte avec l'Algérie 30 ou 40 ans après. Je veux partir en Nouvelle-Calédonie, et à l'époque, je suis encore journaliste à Libération, même si j'écris à côté, et je dis à Serge Julie, je veux partir en Nouvelle-Calédonie, et il me dit, bah, je ne peux pas t'envoyer, parce qu'on a déjà envoyé quelqu'un, et je ne peux pas le rappeler pour t'envoyer là-bas. Je lui dis, mais si, c'est très important pour moi, moi, je dois partir en Calédonie. Il me dit, non, en tout cas pas maintenant, il faut au moins attendre un mois ou deux. Et à ce moment-là, je suis allé voir Bernard Barrault et Betty Mialet, que je ne connaissais pratiquement pas. Et j'ai dit, voilà, je veux partir en Nouvelle-Calédonie et je vais démissionner de Libération. Et ils ont compris au quart de tour, quoi. Je ne sais pas comment c'est possible de ça, mais ça, c'est une vraie relation, quoi. C'est-à-dire, tout de suite, ils m'ont dit, eh ben d'accord, on finance le projet sur la Calédonie. J'ai démissionné. J'avais déjà deux enfants, c'est quand même compliqué. Ils m'ont financé la Calédonie. Ils ont publié le livre sur la Calédonie. Et au retour, parce que j'étais en confiance, je crois, je leur ai dit, ben maintenant, je vais écrire un livre qui va s'appeler « Petit frère qui est mort, priez pour nous ». Ce sera mon premier roman. Et je me souviens des deux disant, d'accord, on te finance. Et donc, ils m'ont payé, alors qu'ils ne m'avaient jamais vu écrire un roman. Et 7 mois après, je leur ai donné mon texte. J'ai écrit comme un dératé. Et je me souviens du premier coup de fil de Bernard Barrault me disant, je viens de lire le texte, il est magnifique, on le publie. Et voilà, et c'était parti. Et après cette relation comme ça, très profonde et qui s'approfondit au fil des années, ça a un prix, quoi. C'est pour ça que je ne comprends pas que les écrivains aillent d'un éditeur à l'autre en fonction de l'argent qu'on leur donne. Moi, je m'en fous totalement. Ça n'a aucune importance, l'argent. Ce qui compte, c'est de publier votre livre avec des gens pour lesquels vous éprouvez vraiment quelque chose d'intéressant intellectuellement, sentimentalement, avec lesquels vous êtes en harmonie, quoi. Et donc j'ai publié en fait tous mes livres chez eux, sauf que au début c'était les éditions Bernard Barrault, et qu'ensuite les éditions Bernard Barrault ont fermé. Donc pendant 2 ans ils n'ont plus été éditeurs. Donc j'ai fait un roman au Seuil, un autre livre au Mercure de France. Et puis, dès qu'ils ont repris tous les deux les éditions Julliard, je suis allé chez Julliard et donc j'ai tout publié chez Julliard. Et c'est vraiment une relation considérable, quoi. Parce que quand vous écrivez, vous êtes tout le temps seul. Et donc, c'est très important d'avoir beaucoup, beaucoup d'estime pour les gens qui vont vous lire en premier. Si vous n'avez pas d'estime pour eux, alors c'est qui celui qui va porter un jugement sur votre texte ? C'est pas possible. Il faut forcément avoir énormément d'estime pour les premiers lecteurs.
À côté de votre activité activité de romancier, je crois que vous avez continué à écrire des biographies, ou en tout cas à servir de plume à des personnages célèbres. Mais ça n'est pas être le nègre de ces personnalités, puisque je crois que vous signez ces
toujours,
portraits que vous faites.
Toujours, oui.
Vous avez fait des portraits
des mémoires.
Ce sont des livres de mémoires. Aussi bien de Sylvie Vartan, de la Mouscoury, mais aussi Ingrid Betancourt. Enfin, il y en a très nombreux. Je ne sais pas si nos amis connaissent cette activité, mais
beaucoup,
vous continuez toujours à faire cette activité.
Je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionné pendant 10 ans, mais vraiment passionné. Et à double titre, je pense. Beaucoup parce que, d'un seul coup, ça vous ouvre les fenêtres de votre vie, en fait. Vous êtes très plongé dans votre musique intérieure. Et puis, tout d'un coup, on vous propose, on vous dit... parce que tout ça vient par ma maison d'édition, hein, de toute façon. On vous dit, tiens, on a reçu Ingrid Betancourt, par exemple. Elle était absolument inconnue à l'époque. Moi, j'ai toujours adoré la Colombie, où j'ai pas mal écrit en Colombie. Et on me dit, il y a une femme qui va se présenter à l'élection présidentielle en Colombie, elle s'appelle Ingrid Betancourt. Est-ce qu'elle veut écrire un livre ? Est-ce que ça t'intéresserait de la rencontrer ? Et oui, ça m'intéresse beaucoup, bien sûr. Ça m'intéresse beaucoup parce que, généralement, je viens de finir un roman, que c'est toujours un peu compliqué, douloureux et tout ça. Quand vous finissez un livre, vous commencez à réfléchir au suivant, etc. Et donc, en fait, c'est presque comme des vacances. Et ça a un double avantage, c'est que c'est des vacances qui se passent en écrivant. Et comme je n'aime pas beaucoup rester sans écrire, J'ai découvert ça, en fait. J'ai découvert le plaisir d'écrire comme ça la vie des gens. Ils me racontent leur vie et je leur rends écrit. Je l'ai découvert à l'orée des années 2000. Je crois que le premier que j'ai fait, c'est en 99. Et j'ai fait plein de gens comme ça. Et c'était comme une drogue. J'avais l'impression de découvrir le monde, de découvrir des univers. J'ai fait les mémoires de Farah Diba, de Farah Pahlavi. Donc, d'un seul coup, je suis rentré dans toute l'histoire de l'Iran. Ensuite, j'ai fait les mémoires de Sylvie Vartan. Et toujours, je fais des vrais livres, c'est-à-dire je ne fais pas du people. Hein. Tous les gens ont un destin. Sylvie Vartan, ce n'est pas forcément seulement « ce soir, je serai la plus belle pour aller danser ». C'est aussi une enfant bulgare, etc., qui a toute une histoire forte. Et donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec elle et tous les autres gens avec qui j'ai travaillé. Beaucoup de plaisir. Et puis, je vois
même
maintenant...
Même avec Jean-Marie Bigard.
Mais j'allais dire surtout avec Jean-Marie Bigard, parce que je ne savais pas que Jean-Marie Bigard était un comique, en fait. Je ne savais pas. Et je vous assure, j'étais assez sidéré, parce que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Fernand Reynaud. Et on me dit, Jean-Marie Bigard voudrait écrire un livre, genre un peu un livre de mémoire ou sur son enfance et tout ça. À part les footballeurs où je dis tout de suite non, parce que ça ne m'intéresse pas, le football, profondément, ça ne m'intéresse pas, quoi. À part ça, je dis toujours, oui, je veux bien rencontrer la personne. Bien sûr, ça m'intéresse, je veux dire, c'est extraordinaire. Vous passez 2 heures avec une personne que vous n'avez jamais vue et vous vous dites, est-ce que je vais faire un livre avec elle ou non ? Alors, bon, j'ai 2 heures pour parler avec elle, et après, je prends la décision. Elle aussi, si je ne lui plais pas, elle peut dire, non, je n'ai pas envie. On se donne 2 heures pour décider ensemble. Et Bigard, je vous assure, j'ai même gardé l'enregistrement. Je suis allé le voir chez lui. Je ne savais pas qui c'était. Je ne savais pas que c'était un type vulgaire et tout ça. Je suis allé chez lui. Je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est peut-être parce que j'ai la tête que j'ai. On s'est assis, il s'est mis à me parler et il a fait 2 heures non-stop. J'ai dû poser 3 questions et c'est extraordinaire, quoi. Il m'a raconté l'amour qu'il a pour sa mère et la façon dont il n'avait pas vu qu'elle était en train de mourir d'un cancer. Il m'a raconté comment son père s'est fait assassiner, comment lui, il était un petit gosse, fils d'un charcutier ambulant en tube Citroën. Son père, il vendait des saucisses qu'il fabriquait lui-même. À bord d'un tube Citroën, vous savez, dans les campagnes autour de la ville de Troyes. Il m'a raconté tout ça et il a parlé pendant 2 heures. Heureusement, j'ai enregistré. C'est la seule personne avec qui j'ai travaillé dont j'ai gardé l'intégralité des 2 premières heures que j'ai fait avec lui. Parce que je vous le ferai écouter, là. On pourrait le balancer sur France Culture intégralement. Il n'y a rien à enlever. C'est extraordinaire, quoi. Mais extraordinaire. D'émotion, de force, tout ça. Et pourtant, c'est Bigard, quoi. Et après, on s'est vus, j'ai fait un livre, il n'y a pas une seule vulgarité dans le livre, et je trouve que c'est un destin magnifique. Après, que malheureusement, il fasse des spectacles que je trouve vraiment très mauvais, mais il fait un spectacle génial. Il en fait un qui s'appelle 100% tout neuf, je crois, où il n'y a pas une seule vulgarité. C'était avant qu'il croit que c'était bien de faire de la vulgarité pour gagner de l'argent. Il a fait un spectacle extrêmement drôle, 100% tout neuf, donc, où il raconte que tout l'été, il a travaillé pour apprendre la culture. Alors pendant 3 mois, il a travaillé, il a fait toute la culture, quoi. Et il commence, et il vous raconte comment, donc étant le crétin de base, qui ne sait absolument pas ni qui est Socrate ni rien, en 3 mois, il a travaillé pour apprendre toute la culture. Et le spectacle est absolument désopilant, mais vraiment formidable, quoi. Donc on voit qu'il a des vraies qualités quand même de comique, hors vulgarité. Mais à part ça, c'est un homme assez attachant. Hein.
Une dernière question, parce que le temps passe, avant de passer à vos questions à vous. Je voulais vous interroger sur les couvertures, sur vos choix pour les couvertures. Je pense que vous y avez collaboré. Elles sont
bien sûr,
au choix.
Hein.
Elles sont très différentes toutes les deux. Pour Le Chagrin, c'est une photo dont vous indiquez à la fin du livre l'éditeur et l'auteur remercient chaleureusement la famille qui a accepté de leur prêter la photo de couverture.
Oui. Oui, parce qu'avec Betty Miel et Bernard Baron, on avait fait le tour des agences de presse pour chercher cette photo-là, en fait. On voulait cette photo-là. Vous voyez, ce type de photo, on a le sentiment d'en avoir tous une comme ça dans notre album. En fait, on ne l'a jamais aussi belle, exactement comme ça. Et donc, on ne l'avait pas trouvée. Et puis, je ne peux pas vous donner la clé de l'affaire, mais... c'est vraiment une famille qui nous est assez proche, mais ce n'est pas la mienne, qui nous a fait don de la photo après avoir demandé l'autorisation aux enfants qui sont aujourd'hui âgés, qui sont sur la photo. Et tout le monde a dit oui, d'accord. Et on leur a fait lire le manuscrit et ils ont dit d'accord. Bon, c'est courageux de la part de la mère qui vit toujours, qui est une dame très âgée et qui donc allait incarner la mienne. Voilà.
Et alors pour Colère, c'est une œuvre de Jean Fautrier qui s'appelle Paysage. C'est un détail, 1940. Moi, j'aime bien le travail, la série de Otages de Jean Fautrier qu'il avait fait en 1945. Ouais. Et puis il avait repris les têtes de. Comment on appelle ça? Les têtes. Après Bucarest, en 1965. Enfin, c'était une poursuite de la série Otages que j'aime beaucoup. Alors, pourquoi cette œuvre particulière?
On a essayé 6 ou 7 couvertures que j'ai gardées d'ailleurs. Aucune ne nous plaisait dans le réalisme, par exemple. Hein. Et puis tout d'un coup, le mari de Betty Mialet, qui est architecte et très artiste, très amateur de peinture, et qui parfois nous fait, c'est lui qui a fait la couverture du Chagrin aussi, parfois nous fait les couvertures quand on a du mal à trouver chez Julliard. Lui, il a un atelier comme ça de composition. Et tout d'un coup, il a dit, moi je crois que j'ai une idée, je vais vous en proposer une. On était en train de dîner avec Bernard, je me souviens, et il nous l'a envoyé sur le téléphone de Bernard. Et il avait donc trouvé ce détail d'une toile de Fautrier. Et tout de suite, ça nous a plu. Parce que pour moi, c'est quand même l'expression de la colère. Enfin, c'est un détail extrêmement torturé, comme
oui.
ça.
Du tourment, oui.
Tourmenté. Et qui allait bien avec le texte, alors que rien n'allait avec ce texte de figuratif. Rien.
Ah oui, voilà, je t'avais noté. Tête de partisan, la deuxième série de Jean Fautrier, qui était une variation sur Liberté, j'écris ton nom de Paul Éluard. C'est une très belle, j'avais vu une très belle exposition. Bon, un très beau peintre.
Ah oui.
Mais vous aimez la peinture, hein?
Oui, j'aime la peinture abstraite, voilà. Ouais. Mais parce que on est dans la même recherche, en fait. J'ai une peintre que j'aime beaucoup qui s'appelle Catherine Barthélémy, là, qui d'ailleurs, ça m'a beaucoup touché parce que c'est une peintre connue, en fait, que j'aime beaucoup. Et après avoir lu Le Chagrin, elle m'a peint une toile immense qu'elle a appelée Le Chagrin et elle me l'a faite livrer. Et j'étais bouleversé par cette toile, je trouve absolument magnifique. Donc, qui trône dans ma grande pièce, comme ça, où je fais des allers et retours toute la journée quand je travaille. Et je regarde sa toile et c'est vraiment un cadeau incroyable. Et c'est ça, quand je parle avec elle, c'est ça, en fait, c'est cette préoccupation de parvenir à dire des choses qu'on pressent, mais on n'a pas forcément les mots ou on ne les voit pas. Tout ce qui se cache dans la vie et qu'on voudra attraper, qu'on voudrait mettre en mots, en peinture, exprimer, voilà. Et je trouve que cette couverture de Colère, elle m'a beaucoup plu à cause de ça, en fait. Parce que tout d'un coup, Hans Reichmann, le mari de Betty Mialet, que j'aime beaucoup, hop, il avait trouvé il avait compris, il avait lu le texte, il avait trouvé. Et c'est après, on se souvient toujours de la première impression qu'on a en découvrant la peinture. Je l'ai vu sur le téléphone comme ça. Il avait mis déjà du roi, colère, tout ça. On voyait. J'ai dit ouais, c'est vachement beau ça. C'est ça qu'on va faire.
Bon, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup à Lionel Duroy et merci à.
Merci.
À vous tous de votre attention. Pour les personnes qui le souhaitent, l'auteur peut dédicacer son ouvrage maintenant.